Bonjour chers Brooke et bienvenue sur Changer de voie, un balado sur la mobilité durable. Un balado destiné à comprendre la mobilité durable et les actions qu'on peut mettre en place pour y arriver, qu'elles soient simples ou un peu moins accessibles. Dans cet épisode, nous allons parler des personnes un peu plus avancées dans leur démarche de mobilité durable. Dans le premier épisode, on a rencontré Zachary, le novice. Dans le deuxième épisode, la mairesse Evelyne Baudin, où nous avons pu apprendre plus sur la ville et sa perspective de mobilité durable. Mais pour aller un peu plus loin aujourd'hui, nous allons parler de ce que vous pouvez mettre en pratique pour être la ou le meilleur en mobilité durable. Je me suis donné pour mission de vous aider à devenir un expert. Pour cela, nous avons une invitée spéciale tout droit venue de l'Université de Sherbrooke, Madame Judith Baudouin, une conseillère en mobilité durable de l'Université de Sherbrooke. Mais je vais te laisser te présenter, tu te connais très bien.
Bonjour, ben merci de me recevoir aujourd'hui. Donc oui, moi je travaille à l'Université de Sherbrooke, je suis conseillère en mobilité durable. Puis je dirais que dans mes temps libres, j'incarne aussi cette mobilité-là, puisque je suis cycliste 4 saisons, maman de 2 enfants qui sont eux-mêmes cyclistes ou déjà à l'aise avec l'autobus de ville ou le transport actif. Donc je suis au bon endroit.
Mais très bien, je suis très contente de t'entendre dire que tu es cycliste. Ça amène mon autre question. Du coup, tu te déplaces majoritairement en vélo. Est-ce que tu as une voiture? Est-ce que tu te déplaces parfois en voiture? Quels sont tes moyens de déplacement?
On a une voiture familiale que j'utilise très peu, puis j'ai honnêtement appris à mettre de l'essence en début de pandémie, puisqu'on a acheté une terre à bois qui demande un déplacement en voiture. Donc, c'était mon apprentissage là, de mes 35 ans. Mais sinon, je suis à vélo à l'année. J'ai aussi pris le programme employé de l'Université de Sherbrooke au niveau du transport en commun pour les rares journées là, où c'est vraiment chaotique, que ce soit à vélo ou en voiture, en fait. Mm-hmm. Donc, pour ces journées-là, je me laisse doucement transporter par la STS.
Ah, ben parfait. C'est quand même une belle initiative de l'Université de Sherbrooke, il me semble, de pouvoir avoir cette opportunité-là de prendre les transports en commun.
Oui, absolument. Ça réduit les coûts énormément. Donc, au lieu de payer 85 $ par mois ma passe mensuelle, mais je la paye 20-22 $ là, selon l'inflation de la STS, qui est prélevée à même ma paye. Donc, ça se fait super bien.
Effectivement, c'est quand même avantageux. Juste pour retracer un petit peu ta démarche, depuis quand tu te déplaces à vélo de cette manière plus mobilité durable? Qu'est-ce qui t'a fait changer si tu utilisais la voiture quand tu étais plus jeune? Retrace un petit peu ton histoire de comment tu es arrivé à cette mobilité durable.
Ben, je pense qu'il a été simple, c'est que j'ai jamais été vers la voiture, en fait. Donc, j'ai toujours été à pied, en autobus. Puis quand j'étais plus jeune, bien sûr, mes parents me transportaient. Mais j'ai toujours été en vélo, sinon, parce que pour moi, c'est ce qui me semble le plus simple, en fait, là, que d'effectuer mes déplacements à vélo.
Très bien. C'est parfait. Une personne de vélo.
Oui, absolument. Je suis aussi une mauvaise conductrice, donc ça motive à rester à vélo.
D'accord. Je peux comprendre ce point. J'ai réalisé un sondage avec des étudiants, des personnes dans la vie active. Ils rencontrent des freins à la mobilité durable, comme que ça peut être complexe, onéreux, pas beaucoup de disponibilité, le temps de trajet qui augmente beaucoup, le manque d'offres, ou la météo, quand il fait moins 30, c'est vraiment pas agréable parfois de prendre le vélo. Donc, qu'est-ce que tu pourrais répondre à ces différents freins rencontrés? Et puis, toi, quels freins as-tu rencontré, si tu rencontres encore des freins sur ce moyen de transport?
Je pense que chacun des freins est vraiment une question de perception. Parce qu'à mon sens, posséder une voiture ou même l'utiliser, c'est extrêmement dispendieux. Mm-hmm. Donc, selon CA Québec, on évalue pour une voiture moyenne au Québec les coûts à 10 000 $ de manière annuelle. Donc, en entretien de la voiture, en paiement des plaques d'assurance, le stationnement, le remboursement de la voiture. Donc, 10 000 $ sur un salaire net moyen québécois à 40 000 $. Mm-hmm. Donc, on s'entend que le quart de la journée de travail sert à payer la voiture, qui sert à aller au travail pour payer la voiture. Donc, ça me semble un non-sens, mais qu'on a tellement accepté dans notre culture. Puis, c'est pas la faute du citoyen. J'ai l'impression que les lobbies automobiles sont tellement puissants que cette image-là de standing social, de facilité, de liberté découlant du fait d'avoir une voiture est omniprésente alors qu'elle est tellement fausse. Je veux dire, on peut faire le parallèle quand même avec l'industrie de la cigarette à l'époque où on nous disait que la cigarette, c'était ça qui était tendance, c'était santé, c'était souvent associé à aller au soleil avec le teint bronzé. Par la suite, bon, bien venu les données par rapport au cancer de la peau. Mais bref, je pense que ce parallèle-là est très important à faire. Donc, c'est pas plus cher se déplacer à vélo. Je veux dire, moi, lorsque je sors avec une facture salée du magasin de vélo, c'est que j'ai changé mes 2 pneus, puis ça m'a coûté 180 $. Puis ensuite, je vais les rouler pendant 8 ans, ces pneus-là. Donc, je pense que c'est pas onéreux. C'est une question de perception. Même chose au niveau de la simplicité du déplacement, mais moi, le fait que le pont Terril ici soit fermé pour le moment, que l'échangeur de Grande Fourche soit fermé depuis des années, ça n'a aucunement affecté le temps de mon déplacement. Donc, mon déplacement, il est le même. Tout ce qui l'affecte, en fait, c'est le volet été-hiver. Donc, hiver, bien sûr, mais comme les automobilistes, j'adapte ma conduite, je pars un peu plus tôt. Puis, au niveau du froid, bien, on a fait des sondages beaucoup par rapport au cyclisme hivernal et c'est jamais le froid qui devient un frein. Donc, t'as jamais froid en vélo. Bien sûr, à moins 40, le mont visage, tu vas avoir froid, mais tu vas avoir froid aussi à déneiger ta voiture. Puis ta voiture, ça sera jamais réchauffé de ton domicile à ton travail. Parce qu'au niveau des statistiques, on peut rappeler qu'à l'Université de Sherbrooke et dans toutes les villes de taille moyenne, en fait, là, si on fait le parallèle au niveau municipal, c'est 44 % des gens qui habitent à moins de 5 km de leur lieu de travail. Donc, 5 km, un, ta voiture ne se réchauffera pas, mais deux, en vélo, c'est une distance absolument accessible, comme elle l'est en transport en commun. Donc là, quand on parle du temps, la perception de déplacement au niveau du temps, mais même chose, je pense que si on met en relief le temps passé à travailler pour payer sa voiture versus le temps de déplacement qui peut passer de 20 minutes à 35 minutes auto versus autobus pour le déplacement au sein de la région sherbrookoise, bien, encore là, je pense que c'est une donnée erronée avec laquelle on travaille, mais c'est une donnée qu'on a acceptée. Il y a un consensus comme de quoi se déplacer en voiture, c'est simple et efficace et ça offre une liberté. Alors que moi, je prends ma retraite bien avant mes collègues en ne payant pas de voiture.
Effectivement, c'est un très bon point que tu amènes ici, le fait que la voiture, ça peut être cher finalement. Mais souvent, ce qui peut revenir, c'est que le fait d'avoir une voiture, plus d'utiliser les transports en commun, plus le vélo, c'est ça qui peut revenir cher. Donc je pense que c'est aussi ça, c'est de savoir où on mène sa bataille, peut-être. Savoir si on va plus arrêter de prendre la voiture, savoir si on prend plus les transports en commun, savoir si on achète un vélo. Toi, qu'est-ce qui t'a fait aller vers le vélo, précisément?
Mais je pense que... Je veux juste rebondir sur ce que tu viens de dire, mais... Le défi à Sherbrooke, effectivement, c'est pas d'avoir aucune voiture dans un ménage, mais c'est peut-être d'en avoir une seule.
Ouais.
Donc, à ce moment-là, le fait de payer les options alternatives, si on peut penser qu'on a dégagé un 10 000 $ dans notre budget parce qu'on a vendu une des deux voitures, bien là, le 10 000 $ je pense que la passe de bus, le vélo, un vélo, je veux dire, ça peut être usagé. Je roule le même vélo depuis 10 ans, puis il m'a coûté 90 $ acheté à Danville. Donc, je pense que c'est quelque chose de très réaliste. Donc, je pense que ça, en effet, c'est un combo de solutions, puis il n'y aura jamais une seule solution qui va résoudre tous les problèmes, tout comme la voiture ne résout pas tous les problèmes, c'est bien au contraire. Donc, moi, au niveau du vélo, mais tu sais, malgré tous les arguments très cartésiens et logiques, donc les coûts, le temps de déplacement, le volet santé, ben, moi, le vélo, je le maintiens simplement pour le plaisir. Puis, je pense que je ne m'en étais pas rendu compte avant la pandémie parce que je fais davantage du vélo utilitaire. Donc, je me déplace à un endroit. C'est très récent que je fais du vélo pour aller nulle part, donc juste pour le plaisir. Puis, les enfants ont beaucoup contribué à ça. Mais en pandémie, lorsqu'on était en télétravail, donc je ne sortais pas le matin aller faire une demi-heure de vélo pour rien, tu sais. Je me suis rendu compte à quel point ça affectait mon équilibre de vie, ma santé mentale, puis simplement mon bonheur au quotidien. Donc, le fait de faire du vélo, admettons que ça me prend un 20-30 minutes me rendre au bureau, j'arrive, puis je suis éveillée, je suis heureuse, j'ai eu mon contact avec la nature. Je ne subis pas les aléas de la météo, je les combats avec mon vélo. Donc, ouais, il y a vraiment un sentiment de empowerment qui vient avec le vélo, puis le fait qu'on soit aussi beaucoup moins de femmes à Sherbrooke à pratiquer le cyclisme utilitaire. Je pense qu'il y a un intérêt aussi à le faire pour pouvoir démontrer que c'est très réaliste et que ça se fait quatre saisons. Et je pense que quand on voit quelqu'un qui nous ressemble, tu sais, je suis zéro une athlète. Une fois que j'ai fini de monter le boulevard université, j'ai l'air d'avoir fumé toute ma vie puis je crache mes poumons. Donc, de voir quelqu'un pas athlétique aussi pouvoir le faire, bien, je pense que ça amène la possibilité qu'on puisse intégrer ça dans notre quotidien.
Oui, effectivement. Moi, je ne fais pas de vélo. Effectivement, je marche beaucoup. Le vélo est compliqué pour moi. Je suis asthmatique. Il y a des raisons pour lesquelles que c'est plus compliqué. Mais donc, la ville, cet été, normalement, est censée proposer des vélos. Il me semble qu'à l'université aussi, si je ne me trompe pas. Mais là, peut-être que je serais plus tentée d'utiliser ces vélos, sachant qu'il y en a des vélos électriques qui peuvent être une solution... à toutes les côtes de Sherbrooke qui peuvent être très compliquées à vélo. J'imagine que toi, ton vélo, c'est électrique?
Non, j'ai un vélo 10 vitesses, dont la moitié des vitesses ne fonctionnent pas, donc un 5 vitesses. Mais l'été, maintenant, depuis 2 ans, là, j'ai considéré que j'étais une adulte et que je pouvais avoir un vélo là, avec des vitesses qui fonctionnaient. Donc, dans mes entre-saisons puis vélo d'hiver, donc c'est des vélos avec peu de vitesses puis pas électrifiés. Puis le vélo d'été, il y a juste des vitesses qui fonctionnent au complet, mais il n'est pas électrifié non plus. Puis en même temps, je pense que les côtes, c'est aussi une question de perception. On peut la marcher, la côte, tu sais, au besoin, s'il y a un problème. Puis moi, je me déplace avec mes enfants beaucoup. Ils ont 5 et 7 ans, puis ils montent sur leur petit vélo 20 pouces, pas de vitesse, à leur cours de natation à l'université, puis ils vont le monter le boulevard université. Donc, tu sais, je pense que c'est juste de prendre son temps. Puis oui, je suis d'accord avec toi. Donc, la flotte qui est supposée être déployée cet été, 60% de la flotte sera électrifiée, puis 40% sera traditionnelle. Donc, peut-être que ça peut enlever des obstacles là, pour certaines personnes qui débutent. Puis on le remarque beaucoup. Je sais qu'en Europe, le phénomène a été différent. Les cyclistes ont beaucoup transité vers le vélo électrique, finalement. Mais ce qu'on remarque en Amérique du Nord, lorsqu'on regarde dans les transferts de part modale, c'est davantage que les automobilistes transfèrent vers le vélo électrique. Donc là, on a vraiment un gain intéressant de transfert de part modale.
Effectivement, c'est intéressant le parallèle avec l'Europe parce qu'effectivement, on aime les voitures électriques, les vélos électriques. C'est vrai, je suis d'accord, dans les villes, c'est des vélos électriques qui sont apparus et non des vélos pas électriques. C'est quand même intéressant de voir ce changement et je suis très contente qu'il y ait un changement qui puisse se faire. Du coup, pour toi, les avantages de la mobilité durable, que ce soit en bus, de marché, de vélo, c'est santé, c'est économique, c'est environnemental. Tu vois même pas la voiture comme un avantage, en fait.
Ah, absolument pas. Bien sûr, dans une très, très longue distance, ou lorsqu'on doit transporter des objets lourds, ou si on est 5 personnes à aller au même endroit au même moment, tu sais, là, c'est un outil, la voiture. Donc, c'est de l'utiliser à bon escient, un peu comme les cellulaires. Tu sais, le cellulaire, c'était pour appeler. Maintenant, quand j'évite 8 piétons là, qui regardent leur cellulaire en marchant, tu sais, je me dis qu'on n'a peut-être pas fait le meilleur usage de cet outil-là. Donc, non, moi, la voiture, de temps en temps, je dois la prendre. Puis, lorsque je suis prise dans le trafic, parce que je suis moi-même le trafic à ce moment-là, j'ai aucun contrôle sur mon trajet. Donc, le fait de ne pas avoir de contrôle, tu sais, en vélo ou à pied, ou même en autobus, tu peux décider de sortir de l'autobus, puis marcher le reste du trajet, de changer de ligne. En vélo, tu ne seras jamais mal pris. Tu sais, au besoin, tu prends, s'il y a un obstacle trop grand, tu sais, tu peux quand même traverser la rivière avec ton vélo sur l'épaule. Tu sais, ça, c'est extrême, mais je veux dire, il y a toujours moyen de s'en sortir à vélo, à pied, en autobus. Mais lorsque je suis dans la voiture, dans le trafic, je ne peux pas avancer, je ne peux pas changer de voie, je ne peux pas abandonner ma voiture. Donc, à mon sens, l'avantage, il est très mince là, pour les transports automobiles. Puis lorsqu'on parle de l'auto solo, en plus, donc le fait d'être seul en voiture, on l'a vu un peu avec la rentrée 2022, où c'était notre première rentrée en présentiel depuis longtemps à l'Université de Sherbrooke. Il y a eu des changements, donc il y a eu une voie qui a été retirée pour assurer une meilleure sécurité, tu sais, des traverses piétonnes. Il y avait des travaux qui n'étaient pas terminés dans les stationnements, donc ça venait réduire l'offre. Mais le nombre de personnes, lorsqu'on le voit, l'auto solo prédomine. Donc, notre problème, lorsqu'on fait des ratios stationnement et communauté universitaire avec d'autres universités, je veux dire, on a un des meilleurs ratios. Puis, je ne me compare pas, bien sûr, avec le Centre-Ville de Montréal. Là. Je me compare avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'UQO, donc des trucs en région, Rimouski. Donc, notre problème, il n'est pas au niveau des stationnements, il est vraiment au niveau des gens qui viennent seuls en voiture matin après matin et qui ne changeront pas leur habitude parce que, selon eux, l'offre, la desserte en alternative n'est pas suffisante. Mais lorsqu'on leur demande quelles sont vos options, ils n'en ont aucune idée. Donc, c'est difficile d'aller rejoindre les gens, de la communication. Je pense que les gens sont tellement saturés de communication que les courriels, ils ne les lisent plus. Les algorithmes des médias sociaux font que si tu n'as pas déjà un intérêt vers la mobilité, tu ne recevras pas les nouvelles en mobilité. Donc, il y a vraiment un cercle à briser là, à ce niveau-là.
Donc oui, effectivement, même moi, je ne lis pas tout le temps mes courriels, pour être honnête.
Moi non plus.
On est un peu tous comme ça. Hein. Puis au niveau des réseaux sociaux, effectivement, ça suit un algorithme de nos intérêts. Donc effectivement, on ne voit pas forcément l'intérêt forcément de regarder ça. Donc c'est un peu pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui. C'est pour permettre à toute personne de pouvoir entendre comme les options qui sont possibles. Mais il y a une question qui revient souvent, donc on en a un peu parlé au début, c'est le côté confort. Donc toi, tu parles de perception, mais souvent c'est quand même un gros frein, le côté confort, de voir comme la voiture comme quelque chose de confortable. Aurais-tu comme des astuces à prendre pour changer nos perceptions sur le fait que ça soit confortable. C'est ça.
Oui, j'ai une anecdote et des astuces. Donc, l'anecdote, donc mes enfants ont toujours fait du vélo d'hiver, puis ils sont encore suffisamment petits pour penser que c'est normal de faire du vélo d'hiver, puis tout le monde fait ça. Puis la dernière année de garderie de ma fille, donc il y a deux hivers, on a eu une semaine très, très froide, là, du moins 30, puis pas de neige, donc c'était vraiment désagréable. Mais tant que les enfants chialent pas, comme en tant qu'adulte, je peux pas me plaindre qu'il fait froid puis que c'est désagréable. Donc, on s'habille puis on va à la garderie à vélo quand même. Puis on passe devant une dame qui est en train de dégivrer son pare-brise. Puis ma fille, du haut de ses 4 ans, remplie de compassion. « Oh, maman, pauvre madame qui doit déneiger sa voiture hein, avant de se déplacer. » Puis elle était comme sidérée qu'elle ait à faire ça. Donc, pendant qu'elle roulait avec son petit vélo, pas de vitesse, le vent d'en face... Non, je pense que la perception, elle reste importante. T'sais, pour elle, c'est ça. La pire chose à faire, c'était d'être immobile et dégivrer un pare-brise, alors qu'elle, elle roulait, puis elle n'avait pas si froid que ça, finalement. Donc, ça, c'est pour l'anecdote sur la perception. Puis, au niveau des astuces, je pense qu'on est dans une société que lorsqu'on tente d'entamer un changement, on y va du tout au tout. Donc, OK, on devient sans gluten, ben, on va jeter notre farine qui avait du gluten, puis on va passer à d'autres choses. Mais peut-être qu'on peut y aller étape par étape. Peut-être qu'on peut faire du vélo quand les feuilles d'automne nous attirent et qu'il fait beau, quand la température est douce. Quand... Donc, peut-être qu'on peut y aller quand on n'a pas de rendez-vous urgent cette journée-là. Peut-être qu'on peut l'essayer une journée où on n'a même pas de travail. Donc, juste pour évaluer le trajet, puis de le plaisir, je pense que c'est vraiment la chose à garder en tête. Donc, le vélo, je veux dire, c'est... Enfant, on en fait parce que c'est un jeu, parce que c'est agréable, parce qu'on sent la liberté de pouvoir se déplacer plus vite, plus loin chez le petit voisin d'à côté. Bien, je pense que c'est ça qui est à garder en tête quand même dans notre cœur d'adulte. Donc, ne pas se mettre de pression, y aller quand il fait beau puis qu'on a envie de le faire, puis maintenir un bonheur par rapport à ça. Parce que même les déplacements en voiture, je veux dire, je sais que ça peut être énervant et fâchant et on peut sortir de notre voiture frustré, les épaules crispées, mais ça, on ne remet pas en question.
Effectivement.
La personne ne va pas toujours être dans le bonheur dans son trajet en voiture. Des fois, oui. Mais souvent non aussi. Donc, je pense qu'en vélo, on peut se permettre de simplement l'essayer puis de l'intégrer quand ça fonctionne, quand c'est pas stressant, puis on va gagner des petits trucs d'une fois à l'autre, puis ça, ça va venir naturellement. Donc, c'est rien faire du vélo. C'est juste faire du vélo. J'ai l'impression que les gens voient ça plus compliqué que ça l'est vraiment. Puis lorsqu'ils l'essaieront, puis c'est toujours ça, on fait des conférences sur le vélo d'hiver, puis par la suite, on a des gens qui viennent nous voir en disant « Hey, je l'ai essayé » et ils l'ont tous et toutes adopté. En se disant, hey, c'est vraiment moins pire que ça n'avait l'air. Donc, d'un côté, c'est dommage parce qu'on perd notre aura de Wonder Woman à vélo, tu sais, d'hiver, mais d'un autre côté, ça vient démocratiser, puis c'est vraiment ça l'important.
J'aime le Wonder Woman à vélo l'hiver. J'aimerais être cette personne. Mais effectivement, on en revient au fait que finalement, c'est pas si compliqué. C'est juste côté de faire des gestes graduels, puis ça va venir avec le temps. Puis qu'on parle de vélo ou de marche ou de bus, là, c'est vraiment une question. C'est sûr qu'en vélo, on va un petit peu plus vite.
Puis ça va dépendre du trajet. Tu sais, je pense qu'il faut juste se donner la chance de réfléchir notre trajet. Est-ce que pour aller acheter ma pinte de lait à 800 mètres de la maison, j'ai besoin de la voiture ou je pourrais le réfléchir autrement? Donc, il y a ça aussi. Je pense qu'il y a le niveau réflexion qui doit venir par rapport à ça.
Effectivement, dans le premier podcast, on en a un petit peu parlé sur le fait d'organiser les trajets. Zachary nous avait parlé justement que lui, il essayait d'optimiser un petit peu son organisation de trajet. Donc, c'était quand même un beau pas pour la mobilité durable. Donc, il y a une autre question que je voulais poser, je l'ai perdue.
Maintenant, ça m'a fait penser à quelque chose aussi. Ça fait somme toute peu de temps que la voiture a une place prédominante dans nos villes puis dans notre quotidien, mais si on réfléchit, il n'y a pas si longtemps encore, on avait un tramway à Sherbrooke, les gens se déplaçaient vraiment autrement, on avait densifié nos milieux de vie pour avoir une mixité des usages à même nos quartiers. Donc, il y a une part que la ville doit mettre de l'avant aussi, mais il y a aussi, puis on en revient toujours au lobby automobile, mais il y a 50 ans déjà, dans l'espace de 2 générations, on a perdu une mobilité active tellement importante. Mais si on s'y met, on peut quand même penser qu'en l'espace de 1 ou 2 générations, on peut retrouver ce lien-là quand même avec la puissance de notre corps pour se déplacer. Là.
C'est ça. Et puis pour les personnes qui aiment la voiture, parce que c'est quand même quelque chose qui est possible aussi, c'est ça. C'est pas obligé d'utiliser la voiture à chaque instant. Et puis ça peut être juste un plaisir de temps en temps de prendre sa voiture. Enfin, il y a plein de solutions. Il y a plein d'options. Il y a plein d'options qui existent. C'est comme pas simplement d'acheter sa voiture électrique puis de continuer à rouler en voiture solo. C'est comme pas la solution. C'est plutôt comme prendre des gestes simples, graduels, puis de voir si ça vous fait plaisir. C'est ça. Je pense qu'on a résumé ça.
Puis on le voit toujours en confrontation, en fait, l'espace alloué aux automobilistes versus aux autres modes de transport. Mais il y a Bruno Marchand, le nouveau maire de Québec, qui l'avait très bien résumé cet automne en disant « Chaque personne qui va quitter l'automobile, parce qu'elle le peut, parce qu'elle le veut, parce qu'elle a la santé physique de le faire, bien, pour l'automobiliste, ça reste un gain. L'automobiliste peut réduire, là, qui, pour plein de raisons, ne changera pas son comportement. Il y aura moins de gens dans ses stationnements. » Il y aura moins de gens dans le trafic ou la circulation le matin que lorsqu'ils ont fait un changement de part modale. Donc, il faut cesser aussi de le voir en confrontation. Puis j'ai l'impression que les médias ont vraiment un rôle à jouer là-dedans parce que l'information qui est relayée, ça va à date, c'est très, très souvent automobiliste contre cycliste, contre voie réservée de transport en commun, contre traverse piéton qui dure trop longtemps. Alors qu'au contraire, pour l'automobiliste, chaque transfert est un gain. Donc, je pense qu'il faut aussi le voir comme un tout puis arrêter de le mettre en confrontation. Mais c'est sûr que ça fait moins vendre de titres de journaux d'avoir des solutions harmonieuses que conflictuelles.
Pour avoir conduit beaucoup en France, j'étais souvent énervée contre les cyclistes. Donc, c'est une vision que je me suis mise à changer en étant comme à tout le temps marcher parce qu'aujourd'hui, j'ai pas de voiture. Donc, effectivement, ça change un petit peu. Mais oui, effectivement, tout le monde est présent sur la route. Puis tout le monde est là. Il n'y a pas de conflit à avoir forcément.
Mais je trouvais que ton point était bon par rapport aux véhicules électriques. Donc, c'est beaucoup le discours qu'on entend, puis beaucoup à l'université aussi. Bien, moi, j'ai une voiture électrique, je devrais pouvoir me stationner de manière prioritaire. Je devrais toujours avoir une borne de recharge qui est libre à ma disposition. Alors que, on n'est pas un garage, tu te géreras avec ta voiture électrique, mais c'est super parce que des fois, c'est vraiment nécessaire de charger. Donc, on a des gens qui viennent de Longueuil, ils arrivent, ils n'ont pas de place parce que les gens qui habitent à 5, 10 km ont priorisé cet espace-là parce que c'était plus près de la porte. Puis, la voiture électrique a énormément de rebonds au niveau de l'étalement urbain, au niveau du kilométrage qui sera effectué. Donc, elle est une solution, je pense, au niveau des transports collectifs, au niveau du transport de marchandises. Mais tu l'as bien nommé, au niveau de l'auto solo, que ta voiture soit électrique ou non, elle ne va pas sauver la planète, elle va sauver l'industrie automobile. Donc, je pense qu'il faut garder ça en tête aussi.
Oui, donc vraiment, c'est comme... Et puis, faire un trajet avec d'autres personnes, c'est toujours agréable.
Oui, absolument.
on s'entend, mais aussi, comme tu l'as mentionné, ça fait moins de voitures dans les stationnements. Donc, on pourrait utiliser cet espace comme à bon escient, faire des beaux parcs, des choses intéressantes pour les personnes, là, les citoyens de Sherbrooke. Quand on regarde les grands parkings, c'est quand même assez gros. Ça pourrait réduire les îlots de chaleur. Donc, il y a quand même beaucoup de bénéfices à ça. Ici, on n'est pas là pour dire qu'il faut arrêter de prendre la voiture.
Non,
on
ça reste un outil parfois, je suis absolument d'accord.
Donc, c'est vraiment, comme on le redit, une question de perception, faire des gestes petit à petit, puis c'est ça. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter sur notre petite entrevue?
Une automobile, en fait, s'est stationnée environ 95 % du temps. Oh. Puis ça a augmenté avec la pandémie, avec le télétravail. Une automobile, ça va demander entre 3, 5, voire même plus en milieu rural, espace de stationnement ailleurs. Donc, on a une perte de terre, on a une perte de revenus fonciers, ne serait-ce que par rapport à ces endroits-là. Il y a le Conseil régional de l'environnement de Montréal qui vient de sortir le livre blanc du stationnement. Puis, eux suggèrent une tarification uniforme, complète et partout des espaces de stationnement à Montréal, puisqu'ils évaluent à environ 1 250 $ par année l'espace d'une case de stationnement. Donc, que ce soit encore là par rapport à l'entretien, par rapport à la perte de revenus fonciers, par rapport à la perte d'espace... je pense que cette réflexion-là, elle est à avoir à Sherbrooke aussi. Donc, pour le moment, c'est dommage parce qu'on tarifie au centre-ville des commerçants indépendants alors qu'on ne tarifie pas les chaînes au carrefour de l'Estrie, tu sais, pour une raison de propriété du stationnement. Donc, je pense qu'il y a cette réflexion-là à y avoir aussi de qu'est-ce qu'on veut comme avenir, qu'est-ce qu'on veut comme utilisation de l'espace. Puis oui, remettre en question la place de l'automobile au centre de notre quotidien.
D'accord. Judith, merci d'avoir participé à cet enregistrement pour ce balado. Tes expériences étaient très intéressantes et surprenantes, en particulier le vélo à moins 30. Ça m'impressionne toujours. Et le mot que tu as utilisé, Superwoman à vélo, j'ai beaucoup apprécié cette expression. Je te souhaite une excellente fin de journée. Merci encore et à bientôt en vélo.
Merci.